Unanimité à l'Assemblée nationale, les députés ont voté favorablement pour le report des élections provinciales. Le scrutin peut être organisé jusqu'au 30 novembre 2025. Les sondeurs annonçaient un scrutin extrêmement serré. Finalement, Donald Trump est largement élu 47e président des États-Unis. Il remporte une majorité d'État avec 292 grands électeurs pour 224 pour Kamala Harris. Le dépouillement se poursuit dans 4 États. Tout savoir sur ce scrutin, ce sera dans ce journal. En métropole, 2500 personnes pour une marche blanche à Romans-sur-Isère. Un dernier hommage à Nicolas, 22 ans, tué d'une balle dans la tête à la sortie d'une discothèque la semaine dernière. Reportage dans ce journal. Retour en Nouvelle-Calédonie avec une rencontre ce matin avec la famille Stouff. Elle a reçu la médaille de la ville de Nouméa lors du conseil municipal de mardi. Une récompense pour saluer son engagement lors des émeutes. Jour après jour, elle a sauvé 800 livres de la médiathèque de Caméré. Le sport, du football et le Paris Saint-Germain qui est en difficulté en Ligue des Champions accueille l'Atlético de Madrid aujourd'hui pour la 4e journée, tandis que Brest se déplace chez le Sparta Prague. Coup d'envoi tout à l'heure à 7h. La météo, les nuages et les averses gagnent Ouvéa et la pointe sud ainsi que le sud-est. Il reste bien présent également sur l'île des Pins, Marais et Lifou. Ailleurs, le soleil reste majoritaire. On attend jusqu'à 20 nœuds du côté de l'Alizée d'est-sud-est. Quant aux températures maximales, elles sont proches des normales de 28 à 31 degrés.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, l'actualité calédonienne à Paris.
Oui, et l'Assemblée nationale qui entérine donc la proposition de loi organique pour le report des élections provinciales. Le texte prévoit de pouvoir organiser ce scrutin jusqu'au 30 novembre 2025. Il a été voté à l'unanimité des 297 votants. Et à l'issue du vote des députés, le ministre des Outre-mer, François-Noël Buffet, n'a pas caché sa satisfaction. Il a rappelé le soutien de l'État pour la reconstruction et salué cette unanimité dans l'hémicycle.
Je ne cache pas ma satisfaction sur la nature du vote qui est unanime dans les deux chambres. C'est un message très fort. Et puis sur la qualité des débats aussi. Chacun s'est exprimé librement. J'ai trouvé globalement un débat respectueux, à la hauteur de la situation. Et d'ailleurs, chacun a pu parfaitement relever l'urgence qu'il y a à trouver des solutions pour la Nouvelle-Calédonie. L'urgence immédiate, économique, sociale, la construction d'un projet pour l'avenir de ce territoire qui est absolument magnifique. Donc il faut lui donner les moyens de se reconstruire, donner aux Calédoniens, à tous les Calédoniens, la possibilité de retrouver du travail. Ça, c'est une chose. Et puis il y a le côté institutionnel, où tout le monde, évidemment, a évoqué le sujet. Ça fait partie des discussions qui vont s'ouvrir à partir de maintenant. Donc, une volonté parlementaire large qui milite pour l'apaisement, pour le débat, pour la discussion, c'est tout ce que souhaite le gouvernement. Et maintenant, nous allons continuer de travailler pour avancer, j'allais presque dire, à la fois le plus rapidement possible parce que c'est nécessaire, mais avec le temps nécessaire parce qu'il faut du temps pour avoir un projet qui soit solide.
Vous venez de l'entendre pour François-Noël Buffet, le ministre des Outre-mer. L'avenir de la Nouvelle-Calédonie passe évidemment par la reconstruction. Il a d'ailleurs indiqué qu'une mission arriverait à la fin du mois. Elle sera conduite par Emmanuel Moulin et devra préfigurer un équipage et une façon de faire pour la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie. Fin de citation. Dans sa prise de parole à l'Assemblée nationale, le député de la première circonscription, Nicolas Metzdorf, a rappelé qu'il était impossible, dans les conditions actuelles, d'organiser des élections provinciales avant la fin de l'année. Et il a également réaffirmé que les partisans de la France étaient engagés pour trouver un accord politique global. Et il a adressé un message aux indépendantistes.
Nous avons besoin de prendre du temps pour retenter la négociation sur le corps électoral, bien évidemment, mais sur l'ensemble des sujets qui traitent de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Et je voudrais ici vous dire tout l'engagement. Évidemment, je parle au nom du groupe Ensemble pour la République, mais l'engagement, à travers moi, du camp non-indépendantiste dans la recherche d'un accord politique global. Jamais les non-indépendantistes, depuis 2021, n'ont boycotté les négociations. Jamais ils n'ont quitté la table des discussions. Jamais ils n'ont contesté un résultat démocratique. Ils ont toujours été présents partout, avec les indépendantistes et l'État, à chaque fois pour faire des propositions, afin de trouver des solutions. Pour trouver un accord, il faut être deux à la table des négociations, et trop souvent, un des partenaires historiques de l'accord de Nouméa a été absent lors des négociations, ce qui nous a empêchés de trouver l'accord politique. Alors nous soutenons encore une fois le fait de dialoguer et de discuter. Mais là encore, chacun doit faire sa part du chemin.
Puis le député de la première circonscription a invité le ministre des Outre-mer et plus globalement l'État à sortir de sa posture d'impartialité.
L'État se devait d'être impartial avant la tenue des 3 référendums, puisqu'effectivement il ne devait pas soutenir le oui ou le non, c'était un choix souverain du peuple calédonien. Mais l'État ne peut pas être impartial quand il s'agit de faire respecter un résultat démocratique. L'État ne peut pas être impartial entre la France et l'indépendance, puisque les Calédoniens ont choisi par trois fois la France, et que le résultat n'est pas contesté par les instances internationales. L'État ne doit même pas être impartial, je rajouterai, pas entre indépendantistes et non-indépendantistes, mais entre démocrates et ceux qui veulent le chaos. Parce que dans les indépendantistes, il y a des démocrates. Vous ne pouvez pas être impartial, monsieur le ministre, entre ceux qui cassent et ceux qui construisent. Vous ne pouvez pas être impartial, monsieur le ministre, entre ceux qui veulent le vivre ensemble et ceux qui ne le veulent pas. Vous ne pouvez pas, monsieur le ministre, être impartial entre ceux qui veulent le dialogue et ceux qui ne le veulent pas. Parce que ce n'est pas seulement la Nouvelle-Calédonie française qui se joue, c'est la démocratie en Nouvelle-Calédonie et le respect de l'état de droit.
À la fin de la séance, le député Nicolas Metzdorf est revenu sur cette intervention au micro de notre correspondant à Paris, Xavier Robert.
Je trouve que l'État, pour essayer d'apaiser les choses, donne trop de gages à ceux qui ont cassé dans le discours. Mais je ne désespère pas que l'État se reprenne, parce que de toute manière, la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut pour la Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut défendre des gens qui portent le fait de développer la Nouvelle-Calédonie, qui portent l'égalité entre toutes les communautés, qui porte aussi le respect démocratique, ou est-ce qu'on veut défendre un modèle de société où la violence finit toujours par l'emporter? Bon, l'État est dans son rôle, je suis dans le mien, on va voir comment les choses se déroulent.
Nicolas Metzdorf qui déclare que les députés d'extrême-gauche ont refusé de s'inscrire dans l'esprit consensuel appelé dans ces débats et se sont encore une fois ancrés dans leur lutte partisane. Il a notamment reproché aux bancs de la gauche d'utiliser au sein du Palais Bourbon la dénomination de Kanaky pour parler du territoire. Le député de la seconde circonscription, Emmanuel Chibaou, s'est lui aussi exprimé au pupitre.
Il faut écrire une page qui prenne en compte les réalités dans lesquelles nos peuples aujourd'hui sont considérés. On demande du respect, on demande la prise en compte de notre parole. Parce qu'ici, il y a eu restriction du corps électoral, c'est aussi témoigné qu'il y a eu des équilibres sur lesquels les accords de paix ont été forgés. Aujourd'hui, ces équilibres, ils ont été fragilisés. Aujourd'hui, on sollicite de faire avec nous, pas faire sans nous. Il est temps de refermer la parenthèse coloniale dans notre pays. Si un accord doit arriver, le Parlement devra le ratifier. Et c'est la première étape, c'est celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui.
Et je rappelle que le texte qui a été voté par l'Assemblée nationale cette nuit à l'unanimité avait déjà été voté à l'unanimité par le Sénat le 23 octobre dernier. Seul le groupe dans lequel siège le sénateur Robert Rowis était alors abstenu. Et puisqu'on parle des parlements, on en sait un peu plus sur le déplacement des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale. Leur programme n'a pas encore été rendu public, mais on sait que Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet passeront 3 jours en Nouvelle-Calédonie. Ils arriveront sur le territoire dimanche, le 10 novembre au soir, et ils en repartiront dans la soirée du mercredi 13 novembre. 3 jours de visite au cours desquels ils devraient avoir de nombreux entretiens pour essayer de rouvrir le dialogue. Et puis le comité interinstitutionnel s'est réuni pour la 2e fois lundi et il demande la mise en œuvre d'une convention financière pluriannuelle entre l'État et la Nouvelle-Calédonie. C'est ce qu'annonce dans un communiqué le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, Léana Colombo.
Le comité interinstitutionnel est une instance qui réunit les élus et les institutions, congrès, gouvernement, province, commune, mais aussi Sénat coutumier et CESE. Il s'est donc réuni lundi pour la 2e fois et dans un communiqué, il indique que la situation financière du territoire s'approche d'un point de non-retour. Sans un soutien supplémentaire massif de la part de l'État s'inscrivant dans la durée, la Nouvelle-Calédonie risque de sombrer dans une crise systémique, aux conséquences irréversibles pour son économie et sa société, poursuit ce communiqué qui ajoute qu'il est donc de la responsabilité de l'État d'intervenir de manière décisive pour assurer la survie du territoire.
Et toujours selon ce communiqué, une délégation conjointe Congrès-gouvernement devrait se rendre dans les prochains jours à Paris pour défendre ses amendements. Un déplacement conjoint qui doit illustrer également, et je cite toujours, la complémentarité entre la résolution portant le plan quinquennal adopté par le Congrès et les travaux engagés par le gouvernement sur le PS2R. Le comité interinstitutionnel a également adressé un courrier au président de la République pour lui préciser que l'ensemble des forces politiques du Congrès et des institutions calédoniennes se sont unis pour préparer des propositions d'amendement au projet de loi de finances pour 2025. Ils espèrent son soutien essentiel pour éviter la faillite de l'ensemble des collectivités calédoniennes.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici la réponse à notre question d'hier tout d'abord. 71% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS pense que la visite du président du Sénat et de la présidente de l'Assemblée nationale ne peut pas permettre de rouvrir le dialogue sur l'avenir institutionnel. Ils sont donc 29% à être d'un avis contraire. Voici maintenant notre question du jour. Elle concerne l'élection présidentielle américaine. On va y revenir d'ailleurs un petit peu plus tard dans ce journal. Êtes-vous satisfait de la victoire de Donald Trump? Si vous êtes satisfait, vous tapez 1. Sinon, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous donc demain pour la réponse à notre question du jour. Avant de partir aux États-Unis, vos rendez-vous d'antenne. La liste Agissons pour un avenir durable de l'artisanat en Nouvelle-Calédonie est arrivée en tête de l'élection pour désigner les représentants de la CMA, avec 54,8% des suffrages exprimés contre 45,2% en faveur de la liste L'artisanat autrement, décidons ensemble. Un scrutin marqué toutefois par un faible taux de participation. Avec 18 sièges sur 25, Elisabeth Rivière devrait donc être réélue sans surprise lors d'une assemblée générale qui sera organisée d'ici 15 jours. Une élection à la Chambre des métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Calédonie dont nous reparlerons tout à l'heure sur notre antenne. En effet, c'est la présidente sortante et donc visiblement réélue, Elisabeth Rivière, qui sera notre invitée du matin à 7h30. Et puis, peut-on croire au développement d'une filière chanvre en Nouvelle-Calédonie? Toutes les parties de cette plante peuvent être valorisées et permettre la création de produits dans de nombreux secteurs. Un premier test, d'ailleurs très encadré, montre que la plante peut pousser dans des conditions favorables en Nouvelle-Calédonie. Alors, est-ce la promesse d'une vraie filière chanvre à venir sur le territoire? Quels secteurs peuvent être concernés? Et est-ce qu'il y a des besoins spécifiques déjà identifiés? Ce sera le thème des jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu ce midi. Jean-François Bodin recevra Frédéric Gérard et Valérie Delage, respectivement président et secrétaire du syndicat du chanvre, et le docteur Anne-Claire Gourina, chef du service santé publique à la DAS. Il est 6h42, vous écoutez Radio Rythme Bleu, et je vous le disais, on va revenir évidemment sur les élections américaines dans ce journal, et ce sera juste après la pub.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Voilà les beaux jours. Découvrez notre sélection de mobilier de jardin 2024. Salon de jardin, coin repas, espace détente, piscine et barbecue. Tout pour vos extérieurs. En magasin ou sur jardiland.nc. Jardiland Nouméa, au quotidien pour tous les Calédoniens.
Jardiland. Cultivez votre bien-être.
À toutes les Calédoniennes, la 19e édition de la Nouméa NOPT pour la lutte contre le cancer du sein est de retour le 24 novembre prochain en baie de Sainte-Marie. Tous les bénéfices générés serviront à soutenir la Ligue contre le cancer de Nouvelle-Calédonie. Inscrivez-vous sur www.inlife.nc. Plus d'informations sur la page Facebook La Nouméa NOPT.
Démonter dans ta belle auto pour venir au marché de Farino.
C'est le marché de Mamie ce dimanche 10 novembre de 8h à midi sur la place de la mairie de Farino. Vous y trouverez tous les produits du terroir, confiture, achar, sirop, charcuterie locale, miel, vanille, de belles plantes, des produits vivriers, chou canac, plants d'hiver, crabes, gâteaux maison, bonbons, des produits bio et originaux que vous dégusterez avec plaisir. Pour vos cadeaux de fin d'année, le coin artisanat local. Sans oublier le café et la restauration pour les pique-niques sur place ou en bord de rivière. Bref, on vous attend avec vos glacières et vos cabas au marché de Mamie ce dimanche à Farino.
RRB Matin, le journal, Nicolas Legrand.
Et à la une de l'actualité à l'étranger, la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles américaines. Au dernier décompte, Donald Trump comptabilise 292 grands électeurs contre 226 pour Kamala Harris, qui observe un long silence depuis l'annonce de cette victoire. Elle devrait toutefois s'exprimer à 8 heures pour nous. Mais cette victoire est sans appel. Elle a bien entendu provoqué une foudre de joie chez les partisans et les sympathisants de Donald Trump, en particulier ceux qui se trouvent à proximité de son fief en Floride. Caroline Baudry est à Palm Beach et elle a rencontré les partisans de Donald Trump qui se sont rassemblés face au Mar-a-Lago dans la joie la plus complète.
Oui, et compte bien le faire entendre sous un concert de klaxons. Une dizaine de personnes agitent sous le soleil en bord de mer des drapeaux géants en face de la résidence privée de Trump. Ces murs orange et ce drapeau américain démesuré qui flotte sur le toit. Tracy, 58 ans, s'enthousiasme d'être ici même pour ce nouveau jour, dit-elle, pour l'Amérique.
Je me sens tellement bien. Je me sens comme si nous avons désormais de l'espoir dans notre pays. Mon entreprise a énormément souffert ces trois dernières années surtout. Les coûts pour élever une famille ont tellement augmenté. J'ai cinq enfants et les nourrir sous l'administration Biden, c'était compliqué. Ça me rendait triste en tant que mère. Je crois que ce que Donald Trump a fait, c'était bien pour notre pays. Et ce qu'il va faire le sera aussi.
Son époux acquiesce un retour au bon sens, c'est ce qu'il souhaite et c'est ce que Donald Trump promet. Selon lui, il faut redresser le pays comme il redresserait une entreprise, privilégier le quotidien des Américains, contrôler les frontières et se concentrer sur la politique intérieure plutôt que sur la diplomatie internationale.
Et du côté de la Géorgie, hein, c'était l'un des swing states, les fameux états où tout peut basculer. À Atlanta, les partisans de Kamala Harris accusent une grande déception. Un reportage d'Aviva Fried pour Europe 1.
La bruine tombe sur les rues d'Atlanta quasi désertes, comme en miroir de l'humeur de la ville. Hugues, un Afro-Américain d'une soixantaine d'années, passe devant une fresque en noir et blanc représentant George Floyd. Il égrène, incrédule, la liste de ceux qui n'ont pas voté Kamala Harris.
De nombreux hommes noirs et blancs ont soutenu Trump. Il a été très soutenu par les Hispaniques.
En Géorgie, la défection des hommes noirs a fait perdre de précieuses voix à Kamala Harris. Ils ne lui font pas confiance sur les questions économiques alors qu'ils subissent la crise de plein fouet. Et Donald Trump, le businessman, les séduit. Sur son vélo, Ted attend que le feu passe au vert. Lui n'en démord pas. Ce n'est pas sa candidate qui est à blâmer.
Ça se résume à de la misogynie. Franchement, je ne pense pas que ce pays soit prêt pour une femme présidente.
Pourtant, certains comme Joël commencent déjà à analyser les raisons de la défaite pour mieux préparer le futur.
Cette campagne a été trop précipitée. Je pense que la meilleure chose que je puisse faire personnellement, c'est de rassembler des gens de mon âge et qui partagent mes valeurs et agir de manière plus stratégique.
À Atlanta, Aviva Fried, Europe 1.
Et le nouveau président américain s'est auto-félicité de ce comeback le plus incroyable des États-Unis. Fin de citation. Il prend acte de sa victoire et remercie les électeurs d'être allés aux urnes. Écoutez Donald Trump.
Nous n'avons jamais vu une telle victoire. Je veux remercier le peuple américain pour l'honneur qu'ils m'ont donné d'être élu le 47e et le 45e président. Cette victoire est magnifique. Elle est pour le peuple américain. Elle va nous permettre de rendre sa grandeur à l'Amérique.
Évidemment, beaucoup de réactions à l'international. Emmanuel Macron, le président de la République, a été l'un des premiers à féliciter Donald Trump en disant qu'il était prêt à travailler avec lui. Un tweet envoyé très tôt avec des mots choisis. Puis le président français s'est ensuite entretenu avec son homologue américain à 4h du matin pour nous. Jacques Serey pour Europe 1.
Cet appel téléphonique a duré 25 minutes. C'était une très bonne conversation, un très bon échange, a fait savoir l'Élysée. Emmanuel Macron et le futur président américain ont échangé sur les grandes crises internationales, l'Ukraine et le Moyen-Orient, rapporte le palais de l'Élysée. Tous les deux ont marqué leur détermination à œuvrer pour la paix et la stabilité. C'était une conversation chaleureuse et très franche, affirme l'entourage d'Emmanuel Macron. Leur échange a été marqué par l'antériorité de leur relation. Pour rappel, entre 2017 et 2021, Emmanuel Macron a déjà eu affaire à Donald Trump. Alors ce matin, le chef de l'État avait d'abord contacté le chancelier allemand Olaf Scholz, car il faut le dire, cette élection rebat un certain nombre de cartes, à commencer, je vous le disais, par la guerre en Ukraine. Donald Trump avait notamment promis d'y mettre fin en 24 heures. Conséquence de cette élection américaine, cela suscite beaucoup d'interrogations. La seule certitude du côté de l'Élysée, c'est le rôle que doit désormais prendre l'Union européenne. C'est à l'Europe désormais de s'affirmer davantage. Ce sera au cœur des échanges entre Emmanuel Macron et ses homologues. Demain, en Hongrie, à l'occasion du sommet de la communauté politique européenne.
Jacques Serey pour Europe 1. L'actualité en métropole maintenant. Nicolas avait 22 ans. Il évoluait dans le même club de rugby que Thomas, ce jeune de 16 ans, tué à Crépol dans la Drôme il y a un an. Comme d'autres depuis, il a été tué par balle à la sortie d'une boîte de nuit en Ardèche le week-end dernier. Nicolas est la énième victime collatérale du narcotrafic. Ce matin pour nous, une marche blanche a rassemblé au moins 2000 personnes à Romans-sur-Isère, dans les rues de la ville et jusqu'au club de rugby. Un cauchemar qui se répète, expliquent les deux présidents du club, Florent Tardy et Patrick Baudouin.
Encore une marche blanche, on n'y croit même pas. Ça nous arrive deux fois sur un an. Thomas, un jeune de 16 ans et un jeune de 22 ans, un coup de couteau, un coup de fusil. Donc abasourdi, assommé, et voilà.
Nicolas, c'est un gamin que je connais depuis qu'il a 8 ans, puisque je l'ai vu grandir au club. Donc c'est dur de voir qu'on le verra plus fouler ce terrain. C'est compliqué à accepter.
Voilà donc pour ces réactions à l'issue de la marche blanche organisée à Romans-sur-Isère. Et puis une autre affaire de meurtre. Un suspect a été interpellé dans l'enquête sur la fusillade qui a fait un mort et quatre blessés, tous mineurs à Poitiers jeudi dernier. L'homme a été identifié comme l'auteur présumé des tirs. Quant au meurtrier présumé de Philippines, il a quant à lui été remis aux autorités françaises. Il a été extradé de Suisse où il était incarcéré. Il va maintenant être présenté à un juge d'instruction. Rappelons que le corps de Philippine, 19 ans, avait été retrouvé en septembre dernier dans le bois de Boulogne. Il est 6h50, vous écoutez Radio Rythme Bleu, on va marquer une nouvelle pause publicitaire. On se retrouve juste après avec la suite de l'actualité sur le territoire et notamment cette rencontre avec la famille Stouff qui a reçu la médaille de la ville de Nouméa pour avoir sauvé des centaines de livres pendant les émeutes.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
Votre Auchan Kéféri fête ses 1 an. C'est notre anniversaire, mais c'est vous qu'on gâte. Ce jeudi 7 novembre, on vous offre 10% de remise sur la charcuterie à la coupe avec la carte fidélité, des bons d'achat et la possibilité de remporter l'un de nos 2 caddies surprises d'une valeur d'environ 60 000 francs. Rendez-vous en magasin.
Laissez-vous séduire par le nouveau Hyundai Santa Fe Hybride, un SUV qui allie élégance et puissance sur la route. Profitez de son espace généreux et de son intérieur luxueux, conçu pour offrir un confort optimal. Avec sa motorisation hybride, le Santa Fe combine puissance et réduction des émissions, idéal pour vos aventures et déplacements quotidiens. N'attendez plus pour vivre cette expérience unique. Rendez-vous dans notre showroom Hyundai à Ducos pour découvrir le nouveau Santa Fe ou réserver un essai sur notre site hyundai.nc.
Les opticiens mutualistes vous proposent des montures de marque classique ou tendance et des verres top qualité de nos verriers Zeiss ou Essilor. Chez les opticiens mutualistes, trouvez au juste prix les montures et les verres qui vous conviennent pour un vrai plaisir de voir. Les opticiens mutualistes à Nouméa, La Foy et Conné.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
Excellent début de journée. La suite de l'actualité sur le territoire, on retrouve Nicolas Legrand.
Et je le disais, la famille Stouff a donc reçu la médaille de la ville de Nouméa pour avoir sauvé des livres au plus fort des émeutes en mai dernier à la médiathèque de Caméré. Lorsque les conditions le permettaient, les membres de cette famille allaient chercher des livres pour les mettre à l'abri, alors que le lieu était régulièrement la cible d'incendies et de saccages. Près de 800 livres ont ainsi survécu aux flammes. Alors recevoir cette médaille lors du conseil municipal de Nouméa, c'était une émotion toute particulière pour la jeune Alabama, 13 ans, et sa maman Aurore.
Je suis fière de ce qu'on a fait. Je me dis tout de même, il n'y a pas beaucoup de gens qui auraient eu le courage d'aller dans une bibliothèque en ruine presque. Je suis fière de nous.
En fait, à chaque fois qu'on en reparle ou qu'on nous pose des questions, effectivement, on se replonge dans ces moments-là, dans le 13 mai, le 14, le 15 mai, et ça nous prend en trip, en fait. C'est assez particulier. Le corps s'en souvient, le corps a un souvenir, et on s'en souvient, on se revoit traverser, voilà, les vitres cassées, vite, on se dépêche. C'est pas que c'est douloureux, mais on se dit, mince, mais qu'est-ce qu'on a fait, voilà. Qu'est-ce qu'on a fait et ben, voilà, on l'a fait. Et ce souvenir, c'est très étrange, en fait, de se rappeler de ça à chaque fois.
Et mardi soir, la famille a donc reçu la médaille de la ville de Nouméa pour cet acte de courage citoyen, salué par le maire Sonia Lagarde et longuement applaudi par l'ensemble du conseil municipal. Les quelques 800 ouvrages sauvés sont désormais accessibles gratuitement pour le grand public à la Maison des Associations. On parle toujours littérature jeunesse maintenant. Manon Fargeton, lauréate de la 28e édition du concours Livre mon ami, avec son œuvre Les tisseurs de rêves, Manel et les mélodies secrètes. La proclamation des résultats a eu lieu hier au Centre socioculturel de La Foy. C'est d'ailleurs la première fois qu'elle est décentralisée. Pour cette édition 2024, l'association Livre mon ami avait sélectionné 7 nouveaux livres. Et pour ce prix littérature jeunesse, les bénévoles de l'association ont permis aux jeunes lecteurs calédoniens de voyager dans le fantastique et l'imaginaire. Plus de 5000 jeunes lecteurs de 252 écoles des 3 provinces ont plébiscité le livre de Manon Fargeton. Pour la proclamation des résultats du livre lauréat, des élèves des collèges de La Foy étaient d'ailleurs présents.
Christine, du collège Saint-Dominique Savio. Manel et les mélodies secrètes.
Franchement, je trouve que c'est vraiment un bon livre. J'ai bien aimé ce livre. Après, c'est vrai que j'ai pas voté pour lui.
Je m'appelle Chris Réo, je suis au collège Théodore Kawabraino et je suis en 6e. Tisseur de rêve, j'ai aimé parce que c'était pas la réalité et puis j'aime bien quand c'est fantastique.
Des propos recueillis donc hier par Kélinda Boicou l'année dernière. C'est l'écrivain Paul Ivoire qui avait été récompensé pour son livre « Poule, renard, vipère ». Et puis c'est une jeunesse qui se distingue pour son engagement citoyen. 20 jeunes écoliers ont été élus conseillers municipaux juniors de la ville du Mont-d'Or le 22 octobre dernier. Et hier après-midi, Léana Colombo, ils assistaient à leur première séance du conseil municipal.
10 garçons et 10 filles âgées de 8 à 11 ans qui, comme les élus, ont pris place autour du maire et de ses adjoints dans la salle d'honneur de la mairie du Mont-d'Or. Leur aventure a débuté par un projet pour améliorer le quotidien de leurs camarades. Comme de vrais élus, ils ont mené campagne dans leur école, puis se sont fait élire le 22 octobre dernier. Parmi leurs préoccupations, leur sécurité à l'école, la préservation de l'environnement ou tout simplement le souci de pouvoir s'amuser pendant les récréations, toutes et tous étaient ravis de pouvoir s'asseoir à la table des grands.
Mon projet, c'était de mettre des pistes cyclables et j'ai participé. C'était mon rêve de parler devant la mairie, donc je l'ai fait. J'ai poursuivi mes rêves, comme m'a toujours dit mon grand-père.
Si je suis devenue conseiller municipal junior, c'est pour aider les autres.
Ça m'a poussée à devenir conseiller municipal junior. C'était parce que déjà, je parlais beaucoup, donc ça serait une chose qui me permettrait de parler. Le projet que j'ai apporté, c'est aider les animaux, aider les personnes âgées, faire une voie verte et mettre un family park dans le monde. Voilà.
Le prochain rendez-vous des CMJ se déroulera lundi prochain pour célébrer l'armistice. Pendant 2 ans, ils se réuniront tous les mercredis pédagogiques pour travailler sur leur projet.
Merci beaucoup Léana Colombo. Il est 6h56. Une dernière pause dans ce journal avant de voir l'essentiel de l'actualité sportive. On parlera notamment de football puisqu'on joue sur les pelouses européennes ce matin en Ligue des Champions.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
DNC, demain en Nouvelle-Calédonie. C'est votre hebdomadaire d'information gratuit pour tout comprendre des enjeux locaux. Politique, économie, société, environnement. Chaque semaine, des analyses approfondies et une perspective unique sur l'actualité. DNC, demain en Nouvelle-Calédonie, chaque vendredi, en version papier et numérique. Retrouvez-nous sur notre site internet dnc.nc et suivez nos actus en direct sur notre page Facebook. Restez informés, restez connectés.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite de votre journal avec le sport, on retrouve Nicolas Legrand.
Et je le disais, on joue donc la suite de la 4e journée de la Ligue des Champions. Ce matin, le Paris Saint-Germain, qui entend difficulté dans la compétition européenne, accueille l'Atlético de Madrid, tandis que Brest se déplace chez le Sparta Prague. Coup d'envoi de ces deux rencontres tout à l'heure à 7h. On signalera également la rencontre entre l'Inter Milan et Arsenal. Le Bayern de Munich reçoit le Benfica et puis le FC Barcelone sera en déplacement sur l'Étoile Rouge Belgrade. Deux résultats déjà à signaler dans cette Ligue des Champions. Le Shakhtar Donetsk s'est imposé 2-1 contre les Young Boys de Berne. Quant au club Bruges, il remporte sa confrontation face à Aston Villa 1-0. Et puis en handball, l'équipe de France démarre une nouvelle compétition aujourd'hui, l'EHF Eurocup, un tournoi de préparation pour le Mondial. Les Bleus vont affronter les 3 pays organisateurs de l'Euro 2026, la Suède, le Danemark et la Norvège, qualifiés d'office. Et de leur côté, les tricolores ont déjà leur billet en tant que champions d'Europe en titre, pendant que les autres nations disputeront les qualifications pour l'Euro 2026 lors des fenêtres internationales. Eh bien, ces 4 nations se défieront sur la base de matchs aller-retour. Et aujourd'hui, les Bleus reçoivent la Suède, ça se passe du côté d'Orléans.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et les prévisions du temps, c'est avec vous Thierry.
Oui Nicolas, ce matin, une bande nuageuse et des averses aborderont l'île des Pins, Marais et Lifou. Sur le nord, des bandes de nuages résisteront et donneront de faibles ondées. Ce sera sur le nord-est. Ailleurs, le soleil brillera généreusement. Le vent, lui, orienté sud-est pour ce matin, proche des 15 nœuds, localement 15 à 20 nœuds sur la pointe nord-est. Sur l'ouest, il sera faible au début, puis il se renforcera en fin de matinée entre 10 et 15 nœuds sur le nord, 15 à 20 nœuds sur le sud. Cet après-midi, les nuages et les averses gagneront également au VA, la pointe sud et le sud-est. Ils resteront bien présents sur l'île des Pins, Marais et Lifou. Ailleurs, le soleil restera majoritaire. Toutefois, il sera contrarié en fin de journée par le débordement de nuages issus du relief, mais les averses ne concerneront que l'extrême nord et elles resteront faibles. L'Alizée pour cet après-midi, est-sud-est à sud-est. Il se maintient autour des 15 nœuds sur l'est et l'île des Pins, ainsi que sur les Loyautés. Ailleurs, il se renforcera autour des 15 nœuds, localement à bon 20 nœuds et des rafales prévues jusqu'à 30 nœuds, et ce sera sur le sud-ouest. Les températures maximales sont proches des normales, entre 28 et 31 degrés.
Merci beaucoup Thierry, merci à tous d'avoir suivi ce journal.